Puis je retourne à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une ADN entrepreneuriale faisait en sorte qu'une décision de business qui fait son sens devait être prisée. Puis ça devenait évident. Moi, je me rappelle dans les premières discussions qu'on avait au niveau global, puis on disait, ben moi, je viens du Génivore. Puis les gens nous regardaient pour en dire, bon, OK. Génivore en anglais, c'est un petit peu difficile à prononcer, puis tout ça. Puis je pense qu'il en devenait un automatisme pour nous de prendre le nom WST.
Olivier Joyal, tu es vice-président exécutif de l'entreprise WSP, filiale canadienne, le leader mondial en service de conseil d'ingénierie. Tu es arrivé dans l'organisation il y a près de 19 ans maintenant, comme le 442e employé, et l'entreprise compte maintenant plus de 70 000 collaborateurs à travers le monde et continue de croître année après année. Olivier Joyal, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Antoine, c'est un grand plaisir de pouvoir raconter cette belle histoire québécoise et canadienne avec toi aujourd'hui. Ça fait grand plaisir.
Une très belle histoire, effectivement, et j'espère qu'on va pouvoir aider, éduquer peut-être même notre audience, parce que des fois, on ne le sait pas, mais WSP, c'est un des plus gros fleurons québécois. Et on va essayer de mettre tout ça en lumière aujourd'hui. Mais bon, Olivier, WSP, comme j'ai mentionné, c'est un fleuron, un joyau québécois. Peut-être qu'il n'est pas assez connu. Donc, on va essayer de le faire connaître un maximum au maximum de gens aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible pour toi, avant qu'on commence, de bien expliquer à notre audience ce que vous faites?
C'est une organisation, tu l'as bien dit, Antoine, qui est méconnue. Et pour une raison qu'on a fait de comprendre, mais on est impliqué dans une série de projets à haut niveau et à haute visibilité partout dans le monde, mais aussi au Canada et au Québec. Cette organisation-là œuvre dans des secteurs d'activité qui sont distincts en ingénierie et en services de conseil stratégique. Comme par exemple, on a 4 grands secteurs au Canada dans lesquels on opère, et puis c'est des secteurs qui vont se dupliquer aussi au niveau global. Donc, on est très actifs dans le secteur transport et infrastructure. Donc, tout ce qui est au niveau du design des grands ouvrages, comme par exemple les ponts, des chemins de fer, des ports, des extensions d'aéroports. Ça, c'est la portion transport et infrastructure au niveau aussi du traitement de l'eau où on est très présent. Le deuxième secteur d'activité qui est important pour nous aussi, c'est au niveau du ce qu'on appelle en anglais property and building, au niveau du bâtiment, donc le design ou l'assistance à la construction des bâtiments, et que ce soit au niveau des grands bâtiments institutionnels, comme par exemple les hôpitaux, des stations de train, par exemple, ou au niveau des aérogares, on peut être impliqué, des grandes tours, pour nos ingénieurs en structure, là, sur les plus grandes tours du monde, WST a été, je pense qu'au-delà de 80%, à tout de moins impliqué de par la structure au niveau de l'architecture de ces grandes tours là à plusieurs étages dans le monde entier. Et je vais garder mon secteur d'activité propre à moi à la fin. Un des troisièmes secteurs qu'on a, qui est ce qu'on appelle énergie, ressources et industrie. Donc ça, c'est un amalgame d'équipes qui vont travailler à la transition énergétique, par exemple, ou à la mise en place de grandes industries, comme par exemple, on n'a qu'à penser à la filière batterie au Québec. On est impliqué dans la mise en place de stratégies d'affaires avec ces clients-là pour mettre en place des industries qui vont ultimement nous aider à aller vers un paysage qui est plus net zéro en décarbonant l'environnement. Et puis, bon, mon secteur d'activité propre à moi, à laquelle je suis arrivé à travers WSP il y a maintenant 19 ans, ben c'est ce qu'on appelle chez nous le science de la terre et environnement. Donc, c'est un secteur d'activité qui est fort pour nous, qui est très stratégique, hein, qui est dans les 70 000 ou à peu près employés dans le monde que tu disais tout à l'heure, Antoine, comprend environ 23 000 de ces employés-là en environnement. Et au Canada, sur les 12 500, 13 000 employés, ben la moitié de notre équipe, c'est l'environnement. C'est 6 000 personnes qui, à tous les jours, vont travailler avec nos clients à réaliser les plus grands challenges qu'ils font face avec le changement de la planète qu'on vit, le changement climatique, la décarbonation, comme je disais tantôt. Mais on a aussi toute une équipe en géotechnique qui vont travailler avec les autres secteurs d'activité à mettre en place des stratégies de design qui vont optimiser la mise en place. Et en projet-là, à travers ce secteur qu'on vient de discuter.
Fascinant et bon. Olivier, tu as été au premier plan d'une croissance rapide, ahurissante même. En 2005, lors de ton arrivée, vous étiez environ 400, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, l'organisation a une capitalisation boursière de plus de 24 milliards de dollars. C'est tout à fait exceptionnel. Et jusqu'en 2012, je crois bien, l'organisation au Canada se nommait Génivore, et par la suite, il y a eu une série d'acquisitions et on en parlera dans quelques minutes. Peux-tu nous dire, là, ça ressemblait à quoi l'ambition à l'époque des gens qui étaient en charge de l'organisation? Est-ce que déjà tu sentais que l'entreprise voulait grandir, voulait s'établir et voulait devenir un leader mondial?
Ah oui, Fatou, pour ceux qui sont dans, à l'intérieur de cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a toujours valorisé l'aspect entrepreneurial. Donc, les gens qui on avait des bonnes idées à faire fleurir à l'intérieur de l'organisation, à aller chercher de l'engagement de nos employés, c'était facile de vendre une idée puis de la faire fructuer à l'intérieur de l'entreprise. Puis, à un moment donné, on s'est questionné sur nous-mêmes, puis à l'époque, écoute, j'étais jeune, il y a 19 ans, je sortais tout juste presque de l'université, puis cette capacité-là, moi, m'appelait beaucoup de pouvoir faire fructuer tes idées, puis une des idées qu'on avait, c'était vraiment d'essayer de sortir un petit peu du Québec. Il faut comprendre que Génivar était une entreprise qui était pratiquement établie seulement qu'au Québec, et les premières acquisitions ont eu lieu en Ontario, puis tranquillement, pas vite, on a grandi à l'extérieur de ces deux provinces-là, puis on a toujours senti ce support-là venant de la haute direction et même des actionnaires. À l'époque, il faut comprendre que Génivar était une compagnie qui était 100% privée avec une série d'actionnaires. Et puis, ça nous a permis de diversifier un peu notre portfolio de projets, de diversifier un peu l'expertise. Hein. Puis, je pense que c'est un peu ce qu'on a toujours voulu vendre, c'est d'être ce fameux différenciateur-là dans l'industrie qui nous permet de vendre notre expertise de haut niveau, de niche. Et puis, dès le début, moi, je sentais qu'il y avait un appétit de croissance, mais pas de croissance pour devenir le plus gros, de croissance pour devenir un partenaire de choix pour nos clients au niveau de nos services conseils en ingénierie, mais aussi des services conseils stratégiques. Je parlais tout à l'heure de l'environnement. Ben, l'environnement, on s'est servi des relations d'affaires qu'on avait avec, comme par exemple, Hydro-Québec. Au Québec, étant établi au Québec depuis nombre d'années, on a pu établir une expertise technique qui était forte, qui nous a amené à travailler sur des projets similaires, par exemple, en Amérique du Sud ou même en Afrique. Donc, c'est ces opportunités-là qui nous ont permis, tranquillement, pas vite, de nous faire connaître à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Et puis, ultimement, ben, en 2012, est arrivée cette transaction-là qui a changé l'histoire de qui on est aujourd'hui avec l'arrivée du WSP. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Génivar était 5000 employés, principalement au Canada, avec quelques petites opérations ici et là à l'extérieur du pays. Mais on a vu l'opportunité de faire l'acquisition de WST, qui était 9000 employés, donc un 5000 employés, achetait un 9000 employés. On devenait une plateforme de 14000 employés à travers le monde. Et quand tu en es suivi, une série d'acquisitions qui ont transformé l'histoire de WST par la suite.
Et c'est ça qui est impressionnant. C'est rare qu'une plus petite entreprise fait l'acquisition d'une plus grande. Comment tu as vécu ça un petit peu de l'interne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris du jour au lendemain? Est-ce que ça se sentait un peu en coulisses qu'il y avait une transaction qui allait se pointer le bout du nez? Je serais peut-être curieux d'en savoir un peu plus ici.
Disons que si je retourne dans le temps, là, les années 2008 à 2012, il y a eu plusieurs petites acquisitions de l'ordre de 1000 employés à 250, même à 50, même à 2 employés. Puis à un moment donné, quand tu sens une consolidation dans le marché, puis tu sens que tu commences à avoir une plateforme qui est forte, qui commence à être reconnue dans une géographie. À l'époque, notre président, qui était Pierre Choiry, regardait à comment on pouvait s'implanter à l'extérieur du Canada. Et est venu, bon, les crises économiques en Europe. Il y a eu une opportunité qui s'est pointée au niveau du WSP, mais ça a été une transaction qui n'était pas divulguée à l'interne. Tu sais, on savait que nos ambitions étaient, puis c'était connu dans le plan stratégique à l'époque, c'était de diversifier géographiquement. À l'époque, bon, j'avais la chance de faire partie de mon jeune âge de vice-président, de recevoir l'information stratégique venant de la haute direction, mais on savait que cette ambition-là allait un jour arriver parce que au fur et à mesure que les jalons qui étaient fixés, on arrivait toujours à nos jalons, puis le WSP a toujours été comme ça, même encore aujourd'hui où on se fixe des objectifs, puis on les atteint, puis quand il y a des objectifs qui sont fixés, on va vraiment travailler très, très, très fort pour y atteindre à ces objectifs-là. On savait qu'un jour, on allait avoir une plateforme globale. Pour un jeune employé comme moi à l'époque, d'avoir accès à travailler de façon globale, j'avais toujours rêvé voyager le monde. Puis quand je me souviens, la journée de la transaction, qui était en juin 2012, j'avais pris quelques jours de congé pour aller voir un match de baseball à San Francisco, pas nommé, puis je suis atterri à l'aéroport de San Francisco pour voir la nouvelle sur mon téléphone. Et pour répondre à ta question primaire, qui était est-ce qu'on le savait, ben moi, je ne savais pas que WST allait être le target ou l'acquisition en tant que telle. Premier réflexe, c'était d'aller voir qui est WSP. Si les gens ne connaissaient pas à l'extérieur du Canada ou Génivar à l'époque, ben moi, je savais pas qui était WSP. Et à mon grand étonnement, c'était de voir qu'il était dans 30 pays. Puis, Rashes of Tree, comme on dit en anglais.
Ce qui est fascinant également, c'est que vous adoptez le nom WSP. Ça fait du sens dans un contexte où est-ce que l'organisation avait un brand davantage établi, une plateforme déjà qui était mondiale, une plateforme qui était déjà globale. Mais bon, des fois, il y a peut-être eu un peu d'égo de garder notre nom de base. Est-ce que très rapidement, dès que l'acquisition a été faite, ça a été mentionné, ça a été discuté à l'ensemble du staff qu'il allait avoir un changement de nom? Ça a pris un certain temps avant qu'il y ait ce changement?
Si je retourne à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une ADN entrepreneuriale faisait en sorte qu'une décision de business qui fait son sens devait être prise. Et puis, ça devenait évident. Moi, je me rappelle dans les premières discussions qu'on avait au niveau global, puis on disait, ben moi, je viens de Genivard. Les jeunes nous regardaient en disant, bon, OK. Genivard en anglais, c'est un petit peu difficile à prononcer, puis tout ça. Et je pense qu'il en devenait un automatisme pour nous de prendre le nom WSP. Les deux compagnies avaient des réalisations extraordinaires. Je pense qu'il fallait être fier de nos racines. On est toujours fiers de nos racines. On a encore un siège social bien implanté à Montréal avec des gens de la haute direction qui travaillent en français. Et ça, on a toujours gardé cette fierté-là. Mais au fur et à mesure qu'on avançait puis on voyait les projets qui avaient été réalisés de façon extraordinaire par WSP, moi, je me rappelle, on est parti le congé de Noël, je pense que c'est en 2013, puis on est revenu du congé de Noël, puis tous nos name tags étaient changés, c'était devenu le logo de WSP, puis personne n'en a parlé, puis on est devenu déjà fiers, une firme québécoise, avec une ambition globale de dire, ben, regarde, nous, maintenant, on est établi dans 40 pays, puis je me souviens, c'est tout le naturel, puis le positiviste, que c'était cette fierté-là de dire qu'on avait des bureaux partout dans le monde.
Bien sûr, clairement, il y a une fierté qui s'installe, j'imagine, avec l'ensemble de l'équipe. Et bon, ton rôle, parlons-en un petit peu maintenant, parce qu'il évolue, il y a eu ces transactions-là, tu disais, tu reviens en 2013, beaucoup de travail se met en place, et je pense que dès 2014, si ma mémoire est bonne, tu obtiens un poste de vice-président, donc tu grandis rapidement les échelons dans l'organisation. Et déjà, on peut le voir et t'en parler un petit peu plus tôt, tu es dans le domaine de l'environnement, c'est votre plus grosse ligne d'affaires au pays. Peux-tu nous dire, ça ressemble à quoi? Et pour quelle raison plutôt, je serais curieux de savoir, qui fait en sorte que le volet environnement est aussi fort pour WSP au Canada? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous gagnez peut-être davantage de mandats que votre compétition?
Si je vais dans la première volet de ta question, mon cheminement, effectivement, est assez exponentiel avec une entreprise qui a toujours investi dans son jeune talent. Pas que je suis en train de me dire que je suis un jeune talent, mais il est certainement quelqu'un qui, dans l'entreprise, qui avait vu quelque chose en moi puis qui m'ont permis de faire certaines erreurs, puis j'en fais encore aujourd'hui, puis d'apprendre de ces erreurs-là, puis de me positionner dans une entreprise et d'apprendre sur tous les gens qui nous entouraient. On a tout un programme de mentorat à l'interne qui nous permet justement d'identifier des gens avec lesquels on a un profil X de pouvoir grandir dans l'entreprise. Et ça, c'est très alléchant pour les jeunes, puis ça me fait plaisir de raconter cette histoire-là. Dès 2012, effectivement, moi, j'avais été nommé à l'époque vice-président de notre secteur environnement au Québec. Et pendant 6 ans, j'étais notre vice-président Environnement Québec, qui était une équipe d'environ, déjà à l'époque, 12, 400 personnes, 450 personnes. Et puis, au fur et à mesure que les choses ont évolué, mon patron de l'époque, André-Martin Bouchard, qui est maintenant aujourd'hui notre représentant global de la plateforme environnement dans WSP, avait pris un rôle justement au niveau global et ça m'a permis de continuer ma progression puis d'avoir le rôle de 2018 de la plateforme national, donc je devenais vice-président national du secteur environnement, qui à l'époque représentait grosso modo 1200, 1300 personnes. Et puis au fur et à mesure que ça a évolué, on a eu dernièrement des changements où on a fait l'acquisition de 2 grandes entreprises en environnement. Pour les nommer, c'est Golder et la section environnement et infrastructure d'une firme qui s'appelle Wood, qui venait en sorte qu'on avait maintenant une plateforme en environnement de 6000 personnes au Canada. Donc ça, c'est l'histoire un petit peu de l'évolution du secteur environnement. Et puis moi, maintenant, j'ai un rôle qui se situe à cheval sur 3 grandes responsabilités. Donc, je demeure en portion de mon travail dans le secteur environnement où j'aide la mise en place de la stratégie de ce secteur d'activité-là, qui est, comme je disais tout à l'heure, un de nos plus grands secteurs d'activité au Canada. Mais mon deuxième chapeau, c'est de mettre en place un programme client pour l'entièreté de la business canadienne. Donc, c'est d'avoir des clients clés avec lesquels on veut travailler main dans la main puis s'assurer que, de par notre expertise, on aide ces clients-là à arriver à leur fin sur les plus grands challenges qu'ils ont. Donc, je travaille avec tous les secteurs d'activité que j'ai nommés tout à l'heure, transport et infrastructure, bâtiment, énergie, ressources et industrie, et mon propre secteur d'activité qui est environnement, sur la mise en place de ce programme client-là qui, lui, vient briser les silos entre les différents secteurs puis vraiment s'associer à un client pour vendre l'entièreté des services de WP. Et puis, mon troisième chapeau, qui est un chapeau qui est très à la mode présentement, qui est le fameux ESG, qui est l'environnement social et gouvernance, qui, ma responsabilité à travers ça, c'est pour l'interne. Donc, on a des objectifs chez WST d'être net zéro, de favoriser la mise en place de programmes, de mise en place qui vont réduire notre empreinte carbone. Donc, moi, ma troisième portion de mon travail, c'est de regarder avec l'entièreté de la business canadienne pour réduire cette empreinte-là et puis d'avoir l'engagement total de notre gouvernance, donc dans le fond de notre leadership exécutif canadien, puis aussi de regarder tous nos programmes qu'on a en place sur le favoriser la mise en place d'une business qui est inclusive, qui travaille avec les différents groupes qu'on a d'employés, puis s'assurer qu'il y a toujours un effet de ce que j'appelle un effet d'élévateur, dans le fond, d'écouter nos employés, qu'on monte les idées, puis qu'on redescend les idées, puis que ce soit un vase communicant. Donc, c'est un peu ce que je fais. Et si je vais au deuxième volet de ta question, Antoine, au niveau de l'environnement, pourquoi c'est devenu un sujet d'actualité chez nous, ben dès la mise en place de notre plateforme, que ce soit canadienne ou même au niveau global, l'environnement était un secteur névralgique pour nous. On l'a toujours identifié comme étant, pas une commodité, mais comme étant un secteur stratégique pour nos clients. On voyait dès le début que l'environnement allait prendre une place hyper importante dans la société. Moi, j'ai commencé dans le secteur de l'environnement il y a environ 22-23 ans. À cette époque-là, le client t'appelait, c'est parce qu'il y avait un problème à régler, hein, ou qu'il avait fait une opération qui faisait en sorte qu'il avait besoin de régler un problème environnemental. Aujourd'hui, les boards, les C-suites, les plus hauts dirigeants d'entreprise vont appeler nos experts pour discuter de comment ils peuvent planifier pour le futur en fonction de l'environnement. Et ça, pour moi, c'est ce fameux shift qui est arrivé dans les dernières années, dans les 20 dernières années, qui est très gratifiant, puis de pourquoi on réussit à se positionner aussi stratégiquement dans une plateforme dans laquelle on est. Je pense que l'aspect technique et d'avoir accès à une expertise technique qui est aussi poussée chez WST au niveau de l'environnement, c'est ce qu'on essaie de développer et de favoriser à l'interne avec une formation continue ou d'aller chercher les meilleurs experts de marché pour ne pas devenir une commodité, comme je disais tout à l'heure, mais d'être vraiment un partenaire stratégique pour nos clients.
Au moment où on se parle, Olivier, sous ta gouverne indirectement, c'est combien de personnes dans le domaine environnement? Juste pour bien situer notre audience?
C'est 6 000 personnes au Canada.
6 000, OK. Donc, en date d'aujourd'hui, ouais. C'est 6 000 personnes. Wow. Et je suis curieux pour les gens qui nous écoutent tout le temps, qui peuvent se poser des questions, un maximum de personnes en rapport direct qu'on devrait avoir si on veut être un bon gestionnaire d'organisation. Combien de personnes se rapportent à toi, peut-être sur un échantillon d'une semaine environ?
Ça, c'est une excellente question, Antoine. De par mon nouveau rôle, c'est un rôle plus d'influence que j'ai dans l'organisation. Quand on a pris la décision et bon, c'était devenu une business assez grosse, 1000 personnes, on s'est structuré en fonction d'avoir vraiment ce qu'on appelle des Profit and Loss Centers, des P&L Centers. Moi, j'ai pris un rôle, comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau du programme client. J'ai de la mise en place de la stratégie qui est vraiment un rôle d'influence. Donc, tu vas trouver drôle ma réponse, mais moi, en ce moment, j'ai une personne qui se rapporte à moi. Mais j'ai de l'influence sur 13 000 employés. Mais dans une structure comme la nôtre, on est assez linéaire dans notre approche. Ce qu'on veut mettre en place, c'est une structure qui permette aux gens d'être plus proches, rapprochés des crises décisionnelles. Et ça, pour moi, ça met en place un sentiment d'appartenance à la décision. Mais je dirais, comme par exemple notre vice-président au Québec, qui est Martin Larose, peut avoir sous lui 40 personnes. Puis ces gens-là, après ça, on les découle. Puis de façon très organique. Un chef d'équipe peut avoir 25-30 personnes.
Dans ce cas-là, on va parler d'un sujet qui est très, très propre à ce que tu fais et qu'on voit beaucoup sur votre site Internet. Parlons un peu de votre empreinte net zéro. Donc, on peut lire sur votre site Internet que vous voulez atteindre cette fameuse empreinte avant 2040. Tu me corrigeras si je me trompe ici. Comment on structure ça à l'interne et comment ça se matérialise au quotidien? Quelles sont les actions, les changements que tu peux voir dans l'organisation qui vont vous amener à atteindre ce fameux net zéro?
Ça, c'est de travailler vraiment de pair avec l'entièreté de l'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, moi, comme tu l'as très bien positionné dès le début, Antoine, j'appartiens à l'entreprise WST Canada, qui est une entreprise qui sert les services à nos clients en consultation. Et ça, cet objectif-là est travailler main dans la main et de pair avec toutes les autres régions de WST. Donc, il y a un WST USA, il y a un WST Europe, il y a un WST en Asie. Et on est sous la gouverne de WFT Global qui, elles, ont fixé les objectifs et tendent à laisser libre action à chacune des régions de mettre en place les actions qu'ils veulent mettre de l'avant pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et je vais en nommer quelques-unes. Je pense qu'on a plein contrôle sur, par exemple, où WFT va décider de mettre une adresse, par exemple. Et puis, pour pas nommer notre bureau de Toronto, par exemple, où on a eu une certaine consolidation d'une série de bureaux qui se trouvaient aux alentours de Toronto, dans le grand GTA, ou même à quelques endroits dans la ville. Et la décision, quand on a pris de consolider ces bureaux-là, la première chose qu'on a regardée, c'était dans un bâtiment qui était avec une certaine certification LEED, par exemple, où on savait que la consommation d'énergie de ce bâtiment-là était regardée, avait été designée en fonction de ça. Après ça, ce qu'on a regardé, c'est qu'on voulait rendre accessible le bureau de par les transits, donc les lignes de métro, les lignes de train, les pistes cyclables, par exemple. Et puis, on a pris la décision d'établir notre bureau directement au-dessus de la Union Station. Pour ceux qui connaissent Toronto, c'est probablement le point névralgique pour le comparer à, si je fais une comparaison avec Montréal, ce serait comme si WST établirait son siège social de Montréal au-dessus de Berry-Uqam, par exemple. Et ça, ça favorise la mise en place de transports en commun pour les gens qui se rendent au bureau. Donc, tu es capable de calculer une réduction de ton empreinte de gaz à effet de serre de, par rapport à cette décision-là. Par la suite, tu regardes tes propres opérations. Donc, ce qu'on est en train de regarder, il y a plusieurs volets, mais au niveau de nos voyages d'affaires, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Et donc, on s'est fixé un objectif de réduire nos voyages d'affaires de 50% en regardant notre baseline de 2018. Bien entendu, ce qu'on veut pas regarder, c'est notre base de 2020. C'était en pandémie, personne ne voyageait. Donc, on est retourné à une ère où le voyage d'affaires était à son maximum. Et ce qu'on a voulu mettre en place, une politique de voyage d'affaires qui nous permette de réduire de 20%, ce qu'on réussit jusqu'à maintenant. Un autre aspect qu'on a le plein contrôle, c'est au niveau de notre parc de véhicules. Bon, la question qu'on est en train de se poser, c'est au niveau du renouvellement, est-ce qu'on ne devrait pas faire l'achat de véhicules hybrides, par exemple? Est-ce qu'on ne devrait pas faire l'achat de véhicules électriques? Et ces questions-là qu'on est en train de mettre en place. Et puis, ultimement, on regarde aussi des façons où on va faire nos achats, comme par exemple les achats de photocopières, les achats d'ordinateurs. Donc, on met dans notre processus d'acquisition d'achat une composante environnementale qui nous permet de choisir le fournisseur qui va avoir le moins d'empreinte carbone. Donc, tout ça s'amalgame dans un objectif où, ultimement, tu veux réduire ton empreinte carbone. Et ça, c'est travailler main dans la main avec les objectifs qui sont fixés par le global.
Et bon, je serais curieux de t'entendre un petit peu ici. Dans le service, vous avez beaucoup de gens qui travaillent chez WSP sans nécessairement rentrer dans le domaine, disons, spécifique. Mais je serais curieux de bien comprendre comment s'installe le travail à distance chez WSP. Comment on fait en sorte qu'une organisation comme la vôtre, qui a autant de talent, autant d'expertise, vous êtes dans le service, donc les gens peuvent tout de même travailler chez eux. Comment vous avez mis ça en place depuis le retour à la normale?
Nous, on a envoyé une directive à nos employés en juin dernier où on demande à nos employés d'être 3 jours semaine au bureau.
Donc, un modèle hybride.
Oui, un modèle hybride. Puis, je pense qu'il est très important de garder cette fameuse flexibilité-là. On a vu le positif. Je pense que tout le monde voit le positif. Moi-même, j'aime travailler. Je pense que la première fois qu'on a eu un entretien, Antoine, j'étais à mon chalet. Le vendredi, j'aime travailler du chalet. Puis, ça me fait du bien. Puis, ça coupe un peu la semaine. Par contre, on y voit des réels bénéfices de se retrouver avec nos pairs, que ce soit au niveau de la collaboration de travail, de briser ces fameux silos-là, mais aussi au niveau du mentorat qui est fait par des gens qui ont une plus grande seniorité au niveau de l'ingénierie, puis qui vont transmettre ce savoir-faire-là à nos plus jeunes, et vice-versa, nos plus jeunes employés qui rentrent, qui arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de travailler qui sont complètement innovantes. On veut faire ces échanges-là, puis c'est ce qu'on favorise. Donc, on a mis une série de mesures en place qui permettent aux gens de pouvoir échanger. Donc, par exemple, des dîners-causeries où à chaque fois qu'on va dans des grandes conférences, on demande à la personne qui est allée à la conférence de, pendant un dîner, de juste transmettre ce qu'il a appris avec une invitation qui est faite à tous. Et puis, on a une série d'événements comme ça qu'on veut pousser dans travers le Grand Canada. Et c'était vraiment important. Notre présidente canadienne, Marc-Claude Dumas, était très enthousiaste envers le fait d'avoir les gens au bureau. Puis, je pense que ça part du leadership. Et moi, j'essaie d'être au bureau 4 jours semaine. Mais quand tu es visible, les gens voient qu'ils peuvent voir, peuvent aller te parler, aller échanger avec toi. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion, mais effectivement, il y a des bénéfices à avoir ce fameux mode hybride-là. Puis, je pense que pour l'entièreté de la communauté économique, c'est important d'avoir des gens au centre-ville, c'est important de continuer, parce que sinon, les centres-villes vont être en déclin, puis c'est pas ce qu'on veut. Puis je pense qu'un joueur comme WSP, avec un siège social à Montréal, a tout avantage d'avoir des gens dans nos bureaux et de voir une activité qui bourdonne autour de ça. Mais je parle de Montréal, que ce soit Québec, que ce soit Trois-Rivières, dans nos bureaux de Bécomo, ben je pense que c'est la même chose qu'on veut qu'il se fait.
Avant peut-être de passer à des petites questions personnelles, j'aimerais revenir à ton rôle. Tu nous parles d'un travail d'influence. Comment tu expliquerais le quotidien d'Olivier du lundi au vendredi? À quoi ça ressemble? Quel type de rencontre? Est-ce que tu es très souvent à Montréal? Est-ce que tu es très souvent sur la route? Juste pour que les gens soient capables de bien comprendre le type de rôle qu'un vice-président pour une organisation publique aussi grande a à faire.
C'est une bonne question. C'est tellement...
Ça bouge beaucoup.
Ben oui, c'est tellement un secteur d'activité qui a bougé beaucoup et qui continue de bouger. Puis on est encore en intégration des deux grandes acquisitions qu'on a fait au Canada, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, je pense qu'au moment où tu as une acquisition, il y a un processus d'intégration qui doit se faire. Et puis, dans le processus d'intégration, c'est de transmission, c'est la transmission de la culture. Et la culture d'entreprise est hyper importante. Et ça se fait, il n'y a pas de secret, là. Ça se fait pas via Teams ou via une plateforme quelconque sur le web. Les gens veulent te voir, veulent te parler, veulent sentir que tu es un humain. Et ça, il y a eu beaucoup de contacts humains. Donc, l'an passé, on a fait énormément de visites dans les différents bureaux à travers le Canada. J'ai aussi personnellement un rôle à jouer au niveau d'un client majeur dans le secteur minier qui est un client global qui m'a amené à voyager beaucoup en Europe dans les dernières années. Et c'est la beauté d'une plateforme comme WST. Pour quelqu'un qui aime bouger, je pense que c'est une opportunité qu'on a de pouvoir voir plusieurs cultures, de travailler avec des gens d'ailleurs dans le monde puis de faire fluctuer cette expérience-là qui après ça est emmenée à toute l'entièreté de l'équipe. Mais au jour le jour, je pense que quand tu as un rôle d'influence, la première des choses, c'est d'être à l'écoute et de toujours garder un effet positif. C'est d'influencer de façon positive. À un moment donné, c'est un effet domino qui va faire en sorte qu'on puisse amener l'entièreté de l'organisation à changer, surtout quand on est dans une organisation qui est en changement et qui est en train de mettre en place certains mécanismes qui viennent faire en sorte qu'on brise un petit peu la façon dont on travaillait dans le passé. Ben, je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute et de toujours expliquer le pourquoi. Une fois que tu as écouté la personne avec certains challenges avec lesquels elle fait face, avec les nouvelles choses qui se mettent en place, ben, c'est d'expliquer le pourquoi. Puis je pense que ça, on le dit souvent, c'est de répéter le pourquoi, puis de toujours avoir la même idée, je pense, le fondement de pourquoi cette décision-là a été prise, puis de bien l'expliquer. Ben, ultimement, les gens ils comprennent pourquoi on prend cette direction-là. Puis je pense que d'avoir un canal de communication qui est très ouvert, je fais communiquer là, trois fois, puis on le répète, parce qu'ils se sentent écoutés, ben, à ce moment-là, même ceux qui prennent des décisions, l'important, c'est de aussi prendre l'autre côté de la médaille ou même de recevoir certains feedbacks qui permettent peut-être des fois de réajuster le tir et de prendre une meilleure décision ultimement. Puis je pense que ça, c'est quand tu as un canal de communication, surtout dans un rôle d'influence qui est ouvert, ben, je pense que les gens l'apprécient.
Fantastique. Et bon, peut-être une petite question, le volet acquisition, vous en avez fait beaucoup, vous connaissez ça chez WSP, tu viens de nous le mentionner, vous êtes en processus d'intégration au moment où on se parle. Ça m'a l'air inévitable dans le service, si on veut grandir, de faire des acquisitions. Tous les gens qui sont venus sur le podcast, dans le domaine du service, on dirait celles qui grandissent très rapidement, partent à la conquête de nouveaux marchés, à la conquête de nouvelles entreprises, les intègrent dans la plateforme. C'est quelque chose qui est encore dans les plans, qui va continuer à s'intégrer dans les prochaines années avec WSP?
Moi, je suis pas dans le secret des vieux de WSP, mais puis ce que je divulgue là n'est pas de la portion confidentielle. Alexandre Lheureux, lors du dernier appel avec les investisseurs, avec les analystes, dans la divulgation de nos résultats du Q3 de cette année, a été clair. Ça fait partie de notre ADN. WSP est une compagnie qui a grandi, qui a une croissance par acquisition et qui va toujours être à l'affût de bonnes entreprises à ajouter à notre portfolio. Et je répète ce que je disais d'emblée, WST n'est pas une compagnie qui va faire l'acquisition pour grandir en nombre d'employés, mais va toujours faire l'acquisition basée sur un focus stratégique qui a été établi par la haute direction au niveau global, qui après ça descend dans les régions. Et puis nous, au Canada, ben certaines niches d'expertise qu'on veut acquérir qui vont nous permettre de adresser certaines problématiques qu'on voit à travers nos projets les plus challengeants, mais qu'on se dit, ben, peut-être que si on avait ce petit bout-là d'expertise de plus, on serait encore capable d'aller un petit peu plus loin. Fait que c'est ça qu'on continue de regarder, puis d'avoir une plateforme qui est forte, tant au Canada qu'au niveau global.
Parfait. Et Olivier, dis-moi, j'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Est-ce que t'aimes la lecture un peu? Est-ce qu'il y a certains livres d'affaires, de gestion, de structure même, d'équipe que tu as lu, qui a marqué ton imaginaire, que tu pourrais partager avec l'audience?
C'est drôle, Antoine, on m'a posé la même question il y a quelque temps où on devait établir une liste de lecture pour nos gens qui se posent souvent cette question-là. Je suis pas un grand lecteur, pour être bien honnête, je suis avec une conjointe qui est prof et une fille qui est à la veille de finir son secondaire, qui veut devenir journaliste, qui sont des grandes lectrices. Moi, je suis un grand curieux, puis les ouvrages qui ont été écrits par... Je veux vraiment surprendre peut-être tes auditeurs de ton podcast. Là. Moi, je suis un grand fan de voyage, de cuisine, et tout ce qui est autour d'Anthony Bourdain, qui est une personne qui emmène une discussion avec un café, avec une bière, avec un bon repas à un autre niveau où tu pouvais permettre de rentrer dans le personnel de quelqu'un. Cette personne-là m'a appris à quel point tu pouvais, par quelques questions, rentrer vraiment dans l'individu puis aller chercher. Puis ce que j'ai toujours apprécié de cette personne-là qui nous a écouté bien trop tôt, c'est que même si tu le regardais à travers un écran, même si tu l'écoutais à travers un podcast, tu avais l'impression d'être assis avec eux, et c'est ce rapprochement d'humain qui, pour moi, m'a toujours appris beaucoup de choses. Donc, tout ce qui était autour d'Anthony Bourdain, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné.
Fascinant. Et tu as parlé de podcast. Est-ce que tu en écoutes un peu ici ou pas tant que ça?
Oh, oui, j'écoute beaucoup de podcasts. Moi, je suis un coureur. Quand je cours, au lieu d'écouter de la musique, bon, il était un certain temps que j'ai essayé d'apprendre des langues, là. Donc, j'ai appris une portion d'italien en courant, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'écoute beaucoup de podcasts, tant au niveau business que de sport. Je suis un grand fan de sport aussi, donc j'écoute des podcasts sur le sport aussi, donc que ce soit au niveau de la course, du trail, des trucs comme ça.
Des recommandations que tu as?
J'aime beaucoup Stealing Chicklin, qui est un podcast d'anciens joueurs de hockey avec un angle assez humoristique qu'ils vont emmener. Mais blague à part, il y a un nouveau podcast que Louis Morissette vient de lancer, tout juste de lancer, qui est un podcast que j'aime beaucoup, avec Jean-Philippe Autier, où ils vont discuter de sport, mais comme si tu étais dans une discussion de salon avec les amis. Puis quand on travaille fort, on dirait que c'est un peu un aspect qui nous manque, c'est d'avoir du temps avec mes amis. En tout cas, moi, personnellement, on dirait que il nous manque toujours un petit peu de temps, puis d'écouter ce podcast-là. J'ai l'impression d'avoir une discussion avec des chums après une game d'hockey dans une chambre.
Fantastique. Et dernière question pour toi, est-ce que tu as une routine avant, pendant et après le travail?
Oui, ben je suis quelqu'un d'assez routinier. C'est bien bizarre que ça peut paraître, parce qu'on bouge beaucoup. Quand je suis à l'extérieur, j'aime beaucoup courir dans une ville. Ça, c'est ma routine. Je suis quelqu'un qui aime découvrir les choses. Puis quand tu as peu de temps dans une ville, un 10 km, tu fais courir là, entre 50 et 1 heure et 20. Là, puis il y a quelques applications qui sont disponibles où tu peux, ce qu'on appelle Run the City, où de par le trajet que tu vas prendre, ils vont t'expliquer un peu l'histoire de ce que tu es en train de courir. Et ça me fait fasciner. Fait qu'à chaque fois que j'ai la chance d'être dans une ville, je pars pour un 5-10 km pour apprendre sur cette ville-là. Mais quand je suis à la maison, moi, je demeure à Montréal, près du marché Jean Talon, dans la d'aller. Puis moi, je marche mon chien tous les matins. Et puis, ma fille qui va à l'école, moi, je voyage en transport en commun. Je prends le métro à tous les jours. Donc, une fois que j'ai pris la marche avec le chien, je marche une section de trajet avec ma fille qui, elle, va prendre la ligne bleue. Puis moi, je descends sur la ligne orange. Puis c'est ma routine de tous les matins. Et puis le soir, j'ai ma routine, j'arrive assez tard. Je fais du sport. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma routine personnelle. Faire du sport, ça permet d'extérioriser un petit peu. Mais surtout, moi, ça me permet de me canaliser un peu l'énergie. C'est important de pouvoir laisser aller cette énergie-là.
Il faut qu'on travaille autant fort notre corps qu'on travaille avec notre tête. Donc, on doit avoir une bonne balance entre les deux. Là.
Tout à fait.
Fantastique. Olivier Joyal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur WSP, peut-être vous êtes en train de faire du recrutement. Meilleur endroit pour vous rejoindre?
Ah, WSP.com. Les sections de chacun des pays sont là. La section canadienne, on a toute l'information sur nos services, sur les postes ouverts. Hein. C'est vraiment la meilleure place. Mon LinkedIn est très à jour. Je suis très actif sur LinkedIn aussi. Donc, vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Ça me fait plaisir de vous répondre. Antoine, ça a été un réel plaisir d'échanger sur cette belle histoire d'une entreprise québécoise, canadienne et maintenant mondiale, avec un rayonnement mondial avec lesquels on fait aller notre excellence technique à travailler avec les projets les plus stimulants de la planète et à répondre à ces grands défis que la planète peut offrir en ce moment, une planète en grand, grand, grand changement. Donc, au plaisir d'avoir échangé avec toi.
Ben écoute, c'est une très belle organisation, on le répète, 70 000 employés, 24 milliards de capitalisation boursière. Donc, c'est un fleuron québécois. Faut en parler, faut le mettre de l'avant encore plus. Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.